important de pouvoir, comme ces temps nous sont proposés, de rentrer vraiment dans la louange, dans l'adoration, rentrer dans la présence de Dieu. Ne vous en privez pas. Pour ceux qui peut-être, ça paraît étrange parce que c'est la première, voire les débuts, les premières fois, ça vous, peut vous paraître étrange de louer, d'adorer comme ça, les yeux fermés devant des paroles qui sont peut-être des fois répétitives. Et en réalité, pour celui qui a compris ce que c'est que la louange, c'est que ces paroles répétitives, c'est comme des paroles qui jaillissent du cœur, vous voyez. On ne le fait pas exprès. Parce qu'on aime, eh bien, on le dit. Et on aime tellement qu'on aime le répéter parce que Dieu, bah, en fait, il est juste merveilleux, quoi. Donc, c'est entrer dans la louange. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien, commencez peut-être à ne serait-ce que oser le lui dire. Parce que, vous savez, en général, quand on commence à ouvrir nos cœurs à Dieu, eh bien, c'est vraiment comme une loi. Eh bien, Dieu ne peut que répondre. Dieu peut que répondre. Et en général, un cœur ouvert à Dieu, eh bien, est peut-être surpris lorsque, eh bien, Dieu répond parce qu'on n'a pas encore l'habitude, mais Dieu veut répondre. Et restez ouvert à Dieu dans la louange. J'aimerais qu'on puisse prendre un texte ce matin avant de développer. Un texte dans le psaume 95. On va étudier le psaume 95 ensemble ce matin. Dieu veut nous communiquer un message important ce matin sur qui se trouve dans le psaume 95. C'est la version Summer. On lit ensemble. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur, acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a faite. À lui et la terre, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. Comme à Meriba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération et j'ai dit alors, c'est un peuple qui s'égare et qui ne fait aucun cas des voies que je lui ai prescrites. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. J'aimerais juste demander à Dieu qu'il nous bénisse pour ce temps d'échange. Seigneur, on vient de lire ta parole. Je te prie vraiment que ce soit toi qui touche nos cœurs. Que ce soit toi qui travaille nos cœurs, je proclame vraiment et je confesse que tu es tout puissant dans nos vies aujourd'hui, que tu auras accès à nos cœurs pour pouvoir encore nous parler, mon Dieu. Je te prie vraiment, Seigneur, d'interpeller et que le miracle ait lieu par ta main et que par ta main seule. Mon Dieu, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message « Ne te prive pas du repos de Dieu ». Ne te prive pas du repos de Dieu. Vous savez, est-ce que ici, il y a des gens qui peuvent lever la main pour savoir si, pour ceux qui savent que le repos a une importance, vous pouvez lever la main. Parce que, vous voyez, c'est quelque chose, en général, je l'ai noté dans la diapo d'après, c'est que le repos, on en comprend l'importance quand on ne l'a plus. C'est très important de le rappeler parce que généralement, on ne l'a plus, voilà, parce qu'on fait des insomnies. Parce que un bébé de quelques mois nous réveille une, deux, trois fois par mois, par nuit. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai un bébé de 5 mois qui régulièrement nous appelle à 2h, 4h, 5h du matin. Et on sait que le repos a de la valeur lorsqu'on ne fait pas totalement nos nuits, vous voyez. Ou alors des fois, je l'ai changé dernièrement et j'ai compris la version du « le repos n'a pas de prix » quand vous allez acheter un matelas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter un matelas. Parce qu'en général, on va chez le marchand pour se dire « on va acheter un matelas ». Jusqu'à ce qu'on voit les prix du matelas. Je sais pas si moi j'étais choqué parce que je m'attendais voilà à pouvoir acheter un lit pour 100 euros, un matelas pour 100 euros, 150 euros. Je vois les prix 500, 600, 1000 euros. Ça allait jusqu'à 3000 euros le matelas. Imaginez un peu à quel point le repos n'a pas de prix. On est d'accord. Et en général, quand on a un mauvais repos, le lendemain matin, quand on va au boulot, on voit le monde en 2D. Je sais pas si ça vous arrive. On n'est pas réveillé, on est désagréable, on est irritable, on a juste une envie, c'est que personne ne nous parle. La collègue peut arriver le matin avec son café, bonjour, je t'ai apporté. Rentre chez toi. On est désagréable, on est irritable. Le manque de repos nous change totalement sur la vision du monde. Et en réalité, si je vous dis tout ça, c'est parce que pour Dieu également, Dieu sait que le repos est important. Non pas que le repos physique, mais le repos spirituel, le repos de nos âmes. Vous voyez, le monde est un monde qui manque de repos, un monde qui manque de paix, un monde qui est agité, un monde qui ne sait pas où trouver la paix. Et en réalité, on voit une chose, c'est que depuis toujours, dans la Bible, Jésus, mais même dans l'Ancien Testament, appelle le peuple, appelle les gens qui sont fatigués, chargés, remplis de soucis, remplis de tristesse à l'intérieur d'eux-mêmes, à venir à lui. On a vu pendant 3-4 semaines, là, ces dernières semaines, le psaume 23, où il est dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Et pourtant, on voit que, des fois, il nous fait traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. On voit que Jésus qui appelle le peuple à dire « Voilà, pour tous ceux qui sont fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai mon repos ». Donc, on voit une chose, c'est que Dieu veut donner ce repos à nos âmes. Il veut nous le donner parce qu'il sait que c'est vital pour nos vies. Et là, en fait, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'on a lu un texte, psaume 95, qui conclut en disant que Dieu ne veut pas donner son repos. Je sais pas, moi ça m'a interpellé en réalité ce texte. Parce qu'il conclut en disant « Je ne leur donnerai pas mon repos ». Il fait référence à une histoire, à un événement important du peuple d'Israël qui est Massa et Meriba. Mais j'aimerais juste dire avant que ce message, en réalité, ce psaume, c'est depuis le mois de janvier que je l'ai. C'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises, deux versets de ce psaume qui revenaient depuis le mois de janvier à plusieurs reprises dans mon cœur comme un message que Dieu voulait adresser à plusieurs ici au milieu de nous. C'est redondant, ces deux versets qui disaient « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». C'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur et je ne savais pas où il était jusqu'à ce que je recherche et je vois qu'il est dans psaume 95 et dans les Hébreux. Mais on voit tout le contexte et on va creuser dans le contexte. Parce que Dieu a un message à apporter en réalité. Et vraiment déjà, le fil conducteur, si j'aimerais vraiment résumer mon message, ça consiste en « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que Dieu veut te donner son repos. Mais n'endurcis pas ton cœur et écoute ce que Dieu a à te dire ce matin. » On voit une chose. Mon premier point, et on va développer, c'est que psaume 95 nous ramène du coup à un événement tragique du peuple d'Israël. C'est Massa et Meriba. Dieu dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de Massa et de Meriba. Massa, Meriba, c'est quoi? Déjà, on a la signification dans la Bible, ça veut dire querelle et épreuve. Querelle et épreuve. On voit le contexte, mon point c'est surtout, ne fais pas l'erreur d'endurcir ton cœur. Ne fais pas l'erreur d'endurcir ton cœur, c'est mon premier point. Le contexte de Massa et Meriba, je sais pas, je pense que vous connaissez tous l'histoire de Moïse, la traversée de la mer Rouge. Vous savez que Israël était un peuple captif en Égypte, alors que Dieu leur avait promis Canaan, ils étaient captifs en Égypte. Et il est dit qu'à un moment donné, alors que Israël, le peuple de Dieu, criait de souffrance, ils avaient besoin de repos. Et bien en réalité, Dieu a entendu leur cri. Il leur a amené un libérateur, Moïse. Et Moïse était juste le porte-parole de Dieu auprès de Pharaon pour dire « Libère mon peuple ». Vous avez peut-être vu un film dont il y a beaucoup d'erreurs par rapport au texte biblique au cinéma, mais le sens, il est là, c'est que Dieu a mandaté un homme, Moïse, pour libérer un peuple qui avait besoin de repos, qui était totalement affligé. Les coups de fouet, la faim, la privation de liberté, toutes ces choses-là étaient la situation de ce peuple jusqu'à ce que Dieu entende leur cri. Il leur envoie un libérateur et ce libérateur, au nom de Dieu, déploie sa puissance et les amène, les conduit à la mer Rouge. La mer Rouge. Ils sont prisonniers. Dieu envoie encore une puissance incroyable, un vent qui ouvre la mer en deux et qui permet à tout le peuple de traverser. Miracle, le peuple est libéré du pharaon. C'est un miracle que vous et moi, on a connu. Parce que nous étions nous-mêmes captifs dans nos péchés, dans nos soucis, dans notre état de vie, dans notre manière de vivre. Tout ça nous avait amené à être esclaves, esclaves de beaucoup de choses, esclaves du péché qui nous rendait mauvais, esclaves de choses dont on ne pouvait pas se libérer. Le fait de voir qu'on était mauvais, qu'on ne pouvait pas changer nos cœurs, il y a un moment donné, on a crié à Dieu et Dieu nous a envoyé un libérateur, Jésus. Jésus est venu dans nos vies. Jésus est venu dans nos vies et lui avait la puissance de pouvoir nous libérer. Grâce à lui, on a pu vivre le repos. Maintenant, ce matin, j'aimerais rappeler, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur et écoute bien ce que Dieu a à te dire. Parce que Dieu a vraiment un message. C'est que Israël a traversé la mer Rouge Et là, il est dit qu'ils entrent dans le désert. En général, le désert, ce n'est pas super bien. En général, dans le désert, il n'y a pas grand-chose. Dans le désert, c'est silencieux. Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, tu as soif, tu as faim. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu permet-il que son peuple, qu'il a libéré, arrive dans le désert, subit la souffrance? Parce qu'il y a un moment donné, on voit une chose, c'est qu'au bout de 3 jours, ils ont soif. Au bout de 3 jours, ils ont soif et ils n'ont pas à boire. Et là, il est dit qu'ils tombent sur une eau amère, à Mara. Le lieu s'appelle Mara, qui veut dire amère. Ils ont tellement soif, ils voient une eau, et quand ils la goûtent, ils voient que c'est amère. Et là, l'amertume, réellement, commence à gagner leur cœur à l'encontre de Moïse et contre Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être amer contre Dieu? Soyez honnête. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être amer contre Dieu. L'amertume nous guette très facilement, mes amis. Parce que vous voyez, Exode 15, à la traversée de la mer Rouge, Myriam prend le tambourin et avec tout le peuple adore, loue Dieu pour qui il est, parce qu'il est grand, parce qu'ils ont été témoins d'une puissance incroyable pour les libérer, qu'ils ne peuvent que le louer. Et en fait, c'est très facile, au bout de quelques jours, lorsque tu es dans le désert, que tes chants de louange laissent place à l'amertume contre Dieu. C'est quelque chose qui nous tend tous à un moment donné à un carrefour de nos vies, parce que du coup, on a soif, on souffre. Et pourquoi Dieu, alors, dans ce cas-là, nous a-t-il amenés dans le désert pour nous faire souffrir? L'amertume, vous voyez, c'est un sentiment, c'est comme une colère qui commence à grandir parce qu'il y a un sentiment d'injustice et de trahison. Il y a des moments, dans nos déserts, on a l'impression que Dieu nous a trahis. Trahis. Dieu nous a trahis. Pourquoi il permet qu'on vive ça? Pourquoi il permet que dans notre famille, il se passe ça? Pourquoi il permet qu'il y ait ce deuil-là? Pourquoi il permet que ce célibat, alors que je l'aime, alors que je veux vraiment peut-être m'attacher à Dieu, pourquoi il permet que je reste tout seul? Pourquoi il permet que mon enfant, ma fille, se détourne comme ça de moi? Pourquoi? Trahison! Je t'ai fait confiance, tu m'as sauvé, et trahison! Est-ce que c'est votre cas ce matin? J'aimerais vous dire, si c'est ton cas ce matin et que tu commences à avoir de l'amertume contre Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Écoute ce que Dieu a à te dire. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Écoute ce que Dieu a à te dire. Parce qu'on voit une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des moments dans nos vies où on peut traverser des déserts. Même Dieu va quand même parler à Moïse, il va dire quelque chose d'important. Dans Deutéronome 8:2, il dit « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté et pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais, oui ou non, obéir à ses commandements. » On voit une chose, c'est que Dieu nous amène à vivre des fois des temps de désert pour éprouver ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Parce que, vous voyez, Dieu veut se montrer comme notre sauveur. Ça, on l'a bien compris, Jésus est notre sauveur. Mais quand on rentre dans cette vie avec Dieu, avec Jésus, Jésus ne veut pas être que notre sauveur. Jésus veut être bien plus que notre sauveur. Jésus peut manifester sa puissance dans ta vie et t'avoir sauvé à des moments précis de ta vie. Mais du coup, maintenant, il te demande plus que ça. Il veut être ton Dieu. Il veut être ton Seigneur. Il veut être celui qui va prendre la première place dans ton cœur. Et pour ça, il veut voir ce qu'il y a dans ton cœur pour te montrer que ton cœur, en fait, il a besoin d'être changé. Il a besoin d'être docile. Il a besoin d'être perméable à sa volonté. Pourquoi? Parce que sans ça, il ne pourra pas faire et t'employer dans tout ce qu'il a prévu pour toi dans toute ta vie. C'est dur à comprendre. Et pourtant, Dieu veut mettre en avant, comme devant nos yeux, l'état de notre cœur. Regarde le cœur naturellement comment il est. Il est tordu, il est tortueux. Et pourtant, moi, je voudrais vraiment pouvoir le façonner. Je voudrais pouvoir le rééduquer. Je voudrais pouvoir que ton cœur, à nouveau, il soit perméable vraiment à tout ce que je veux faire pour toi. Et là, vous voyez, quand commencent à arriver les premières épreuves, l'amertume, on est tenté de se fermer, de se bloquer, vous voyez, de se dire, de se protéger. On bloque tout. Vous voyez, l'endurcissement, c'est quoi? Ça vient du mot grec qui veut dire scléroser. Un cœur dont les artères sont sclérosées, c'est un cœur dont plus rien ne peut passer en réalité. Il meurt. Et le danger dans nos épreuves, c'est que nous nous endurcissions parce que du coup, l'amertume commence à nous gagner. La révolte contre Dieu commence à nous gagner. Et en réalité, Dieu ne peut plus nous parler. Dieu ne peut plus rien faire avec nous. Alors que Dieu voudrait tout simplement nous amener à Canaan. mais selon ses plans, selon sa manière, parce qu'il veut changer nos cœurs entre-temps. Et on voit une chose, c'est que il veut nous changer et changer nos cœurs pour susciter la foi en nous. Susciter la foi en nous. Parce que Dieu reste Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Dieu reste à tes côtés. Que tu sois à traverser la mer Rouge ou que tu sois dans le désert, Dieu est là. La nuée était là le jour. La colonne de feu était là pour les guider dans le désert, mes amis. Seulement, il y a un moment donné, l'épreuve, l'amertume, la révolte, le découragement fait qu'on finit par oublier que Dieu est encore à nos côtés, que la colonne de nuée, la colonne de feu, qui est pourtant visible à l'œil nu, et on le sent parce qu'il y a des moments où Dieu nous fait sentir sa présence, nous parle, eh bien, malgré tout, on finit par, à cause de l'épreuve, dire non, c'est fini avec Dieu, j'arrête, je trace mon chemin, c'était bien mieux avant. Est-ce que vous vous rappelez aussi qu'il y a un moment donné, les Israélites, alors que ils continuent leur parcours, ils commencent à dire « mais on a faim, mais c'était bien mieux avant. On était en Égypte, on avait des melons, on avait de la viande. » Vous vous rappelez de ces textes? Mais est-ce qu'ils avaient des melons, est-ce qu'ils avaient de la viande? Ils n'avaient rien du tout, ils avaient des coups de fouet, ils se battaient peut-être pour avoir un peu à se nourrir pour pouvoir survivre. Ils n'avaient rien, mais l'épreuve nous amène à biaiser notre vision de qui est Dieu et de ce que nous étions avant. Le fait de continuer à se révolter et à rester amer contre Dieu nous amène à nous endurcir et à nous endurcir et à nous endurcir plus chaque jour pour qu'à un moment donné, on perde tous nos repères sur qui est Dieu et sur ce que Dieu veut pour nous. Le fait que Israël soit dans le désert, effectivement, lui faisait souffrir des fois la faim, la soif, mais Dieu était avec eux. Dieu pourvoyait encore à leurs besoins. Regardez, comme quoi Dieu veut vraiment nous apprendre, nous éduquer. Il y a un moment donné, alors qu'on est à Mara, il y a l'eau amère, et là, ils sont dégoûtés. Dieu vient dire à Moïse, regarde, effectivement, ils sont amers, il prend un bâton, il le met dans l'eau, et l'eau devient douce. Douce. Hé, hey, une très belle image. On voit une chose, c'est que Dieu, dans son éducation, dans nos vies, dans notre apprentissage, il veut adoucir nos cœurs. Et il leur dit, écoutez, voilà, je vais vous donner des préceptes, je serai avec vous, obéissez-moi, et vous saurez que je suis l'Éternel qui guérit. Et vous saurez que je suis l'Éternel qui guérit. Verset 25 d'Exode 15, je crois. Dieu veut, malgré notre amertume, nous rappeler qu'il est le Dieu qui guérit. Peut-être que tu es amer ce matin, mais tu commences à tendre, à vouloir vraiment t'endurcir. Dieu te dit, arrête maintenant l'amertume. Je veux te guérir. Je veux juste te faire comprendre une chose. C'est que, quelle que soit la situation de ta vie, le repos, tu peux l'avoir. Parce que tant que je suis avec toi, eh bien, tu peux avoir ce repos. Le repos de Dieu, c'est sa présence. C'est le fait qu'il nous accorde sa paix lorsqu'on se confie totalement en lui, qu'il nous communique par son esprit cette paix indescriptible qui ne peut que s'expliquer quand on le vit. Eh bien, c'est nous faire comprendre que tant que Dieu est à nos côtés, tant qu'on puise nos forces en Dieu, eh bien cette paix, elle est là. Qu'on soit dans les bons moments, dans les mauvais moments, elle est là cette paix. Le repos de Dieu, il nous est communiqué. Et Dieu veut nous apprendre à ne pas compter sur nos circonstances, de nos vies, de nos déserts, de nos épreuves, mais nous reposer en lui, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, écoute ce que Dieu a à te dire. On voit une chose, Jésus nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Jésus est celui qui dit, aujourd'hui l'amertume, j'aimerais apporter un peu de douceur dans ton cœur. Je veux juste te faire comprendre que je suis à tes côtés. N'endurcis pas ton cœur au point qu'il soit endurci et qu'il soit comme sclérosé à qui je suis, à ma parole. Rouvre un peu ton cœur pour que je puisse y déposer ma douceur, que je puisse continuer la route avec toi. Ne me laisse pas sur le côté, mais tu vas mourir dans le désert sans moi. Mais laisse-moi juste t'accompagner. Vous êtes toujours avec moi ? Et on voit une chose, c'est que Dieu va leur donner cette douceur. Ils vont continuer. Ils vont à nouveau se plaindre. Mais c'était mieux en Égypte. Dieu va leur envoyer l'écaille, de quoi se nourrir. Imaginez le miracle dans le désert. Il y avait 2 millions de personnes dans le désert. 2 millions de personnes. Dieu leur donne des cailles. Dieu manifeste sa puissance. De la même manière que Dieu, même dans ton désert, tu ne t'en rends pas toujours compte, tu l'oublies parce que tu commences à t'endurcir. Eh bien, Dieu est toujours là pour t'amener un peu de quoi manger, t'amener à continuer le chemin. Parce que Dieu est encore avec toi. Seulement, le problème, c'est qu'il continue à s'endurcir, à s'endurcir. On voit qu'après qu'ils aient les cailles, ils continuent dans le désert, dans leur marche, et là, ils se révoltent totalement avec Dieu. Ils ont à nouveau soif, et là, ils ne retiennent pas les leçons. Ils se disent, mais où est Dieu ? Là, il y a un verset très intéressant, il nous dit, mais... Il est dit... Excusez-moi. Ah, voilà. Ils disent comme ça, mais l'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ? Mais est-ce qu'il est vraiment là ? Est-ce que tu es vraiment capable ? Vous voyez, le fait de tenter Dieu. Alors que Dieu est toujours là pour pourvoir nos besoins, l'endurcissement nous fait plonger encore plus dans la révolte contre Dieu. Dieu est là pour nous bénir. Dieu est là pour nous bénir. Il nous a conduits encore jusque-là. Il ne va pas nous abandonner. Et en réalité, nos épreuves nous amènent à commencer à pointer le poing contre Dieu en disant, mais franchement, est-ce que t'es vraiment là ? Est-ce que t'es vraiment capable ? Il commence à un peu l'insulter en lui disant, mais regarde ma situation, t'es pas Dieu. Si tu serais vraiment Dieu, je serais pas comme ça aujourd'hui. L'endurcissement nous plonge toujours plus dans la révolte contre Dieu. Et c'est là qu'on voit que Dieu va dire à Moïse, prends ton bâton, frappe le rocher. Et là, Moïse va frapper et l'eau va jaillir. L'eau va jaillir. Et il va nourrir et va désaltérer le peuple. Et on va appeler ce lieu Massa et Meriba. Massa et Meriba. Querelle, épreuve, opposition avec Dieu. Opposition avec Dieu. Et on voit une chose, c'est que on voit Massa et Meriba, le peuple continue à parcourir son chemin dans le désert en direction de Canaan. Ils avancent toujours plus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, au bout de 40 années, on revoit à nouveau Moïse qui frappe le rocher alors qu'il n'aurait pas dû. Et là, parce que le peuple se révolte encore, et il est nommé que ce moment-là également s'appelle Massa. Mais c'est très révélateur d'une chose en réalité, c'est que toute cette génération pendant 40 ans a vécu Massa et Meriba. Toute cette génération a vécu Massa et Meriba. 40 années de querelle et de révolte avec Dieu. Alors que ces 40 années où Dieu s'époumonne à pouvoir essayer d'éduquer son peuple, le faire grandir dans la foi, lui montrer qui il est et qui il veut être. Et en réalité, 40 années où le peuple n'accepte pas parce qu'il est endurci, fermé, bloqué, mais sclérosé à l'écoute de Dieu, à vouloir lui obéir. Et là, en réalité, c'est 40 années. C'est symptomatique. À l'entrée du désert, à la sortie du désert, 40 années, Massa et Meriba. Tu commences avec Meriba et Massa, avec la querelle avec Dieu, et tu termines avec Dieu. Le risque, mes amis, c'est que dans nos vies, on ne cherche pas à grandir, on ne cherche pas à obéir à Dieu, on ne cherche pas à lui plaire. On cherche juste à chercher un Dieu sauveur et non pas un Dieu Seigneur qui ne nous permette pas de vivre le repos, de vivre notre vie 40 ans ou alors toute notre vie sans pouvoir vivre le repos de Dieu. Être constamment en conflit avec Dieu, constamment en conflit à continuer à lutter, à provoquer Dieu par notre manque d'obéissance, par notre manque de foi, par la volonté de ne pas vouloir obéir. L'endurcissement nous amène à nous priver du repos. Et Dieu nous dit, je vous en supplie, n'endurcissez pas vos cœurs. Écoutez ce que j'ai à vous dire. J'aimerais qu'on voit une vidéo, si c'est possible de la mettre, parce que Dieu nous dit que si...
Tu ne me feras pas croire que
écoutez
Dieu
bien.
Est bon.
Plus fort.
C'est la vérité, ce monde est le résultat d'un hasard. Comment est-ce que je peux croire que Dieu veut utiliser ma vie ? Je suis sûr que Dieu m'a laissé tomber. Je ne dirai plus jamais que Jésus est ressuscité. Je sais mieux que jamais que l'homme n'a pas besoin d'être sauvé. Il est absurde de penser que Dieu répond aux prières. Le chrétien croit que sans Dieu, le monde basculerait dans l'obscurité. Ce monde peut satisfaire mes besoins. C'est un mensonge de dire que Dieu a toujours été là pour moi. Je réalise que ce que je fais n'a aucune importance. La vérité, c'est qu'il ne m'aime pas. Comment est-ce que je peux imaginer que Dieu est là pour moi ? À moins qu'il change mon cœur et que je réalise que Dieu est là pour moi. Comment est-ce que je peux imaginer qu'il ne m'aime pas ? La vérité, c'est ce que je fais n'a aucune importance. Je réalise que Dieu a toujours été là pour moi. C'est un mensonge de dire que ce monde peut satisfaire mes besoins. Sans Dieu, ce monde basculerait dans l'obscurité. Les chrétiens croient que Dieu répond aux prières. Il est absurde de penser que l'homme n'a pas besoin d'être sauvé. Je sais mieux que jamais que Jésus est ressuscité. Je ne dirai plus jamais que Dieu m'a laissé tomber. Je suis sûr que Dieu veut utiliser ma vie. Comment est-ce que je peux croire que ce monde est le résultat d'un hasard? C'est la vérité. Dieu est bon. Tu ne me feras pas croire que Dieu ne m'aime pas.
Amen. Amen. On voit un jeune homme. Ça parle très bien parce que, vous voyez, c'est la même personne, deux discours totalement différents, deux cœurs différents. Ce premier, c'est un cœur qui est totalement fermé à Dieu, qui ne croit plus dans les promesses de Dieu, qui ne veut même plus y croire, qui commence à renier Christ, qui commence à renier qui est Christ, qui est la puissance de Christ. Et il y a un moment donné, il y a un déclic, il change de cœur. Il change de cœur. Il est transformé et il voit les choses totalement différemment. Il voit Dieu différemment. Pourquoi ? Parce que la foi commence à pénétrer son cœur. Et la foi lui permet de voir et d'expérimenter quelque chose de nouveau pour sa vie. C'est que le Dieu qu'il croyait lointain est en réalité un peu plus proche qu'il ne le pensait. Le Dieu qu'il pensait impuissant est en réalité un Dieu parce qu'il a le cœur qui est totalement ouvert à ce que Dieu veut lui dire. Eh bien, un cœur qui voit que Dieu peut avoir la possibilité de le sortir de là où il est. Le fait de pouvoir dire que Dieu l'aime, alors qu'en réalité l'épreuve nous amène à penser par moments que Dieu nous a oubliés, Dieu ne nous aime plus, Dieu est mort selon les philosophes. Alors qu'en réalité, lorsque notre cœur change, lorsqu'on est à nouveau sensible et qu'on s'expose à la parole de Dieu, à ses promesses, eh bien, elle a la puissance de métamorphoser notre manière de vivre. Dieu nous communique son repos. Dieu nous communique son repos. Et ce matin, Dieu veut te communiquer son repos. Par contre, il faut que tu changes de cœur. Dieu dit, l'endurcissement, ça endurcit ton cœur. Dieu dit, voilà, si vous avez des cœurs de pierre ce matin, si vous avez des cœurs comme de la pierre à mon égard, j'aimerais vous donner des cœurs de chair. Des cœurs sensibles, des cœurs où la pluie va à nouveau tomber, la pluie qui est le Saint-Esprit qui va à nouveau attendrir votre cœur. Parce que c'est quelque chose que Dieu vous appelle à vivre. Dieu ne veut pas vous priver de son repos. Bien souvent, en fait, on se prive de son repos parce qu'on ne réunit pas tout simplement ce cœur qui nous permet de vivre son repos. On est imperméable à ce que Dieu nous demande. Et aujourd'hui, Dieu nous dit « Écoutez ce que j'ai à vous dire ». C'est la première partie de ce psaume, avant qu'on arrive à si vous entendez sa voix. Les 7 premiers versets du psaume 95 nous disent, et Dieu veut nous rappeler déjà qu'il est notre Dieu. Qu'il est Dieu. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est la louange qu'on a écoutée tout à l'heure sur les 7 premiers versets. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a faite. À lui et la terre, ses mains l'ont formée. Comprenez une chose, c'est que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous sommes des hommes avec un début, une fin, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas gérer le monde entier. Dieu l'a créé. Dieu gère le monde. Seulement, il y a une chose qu'il ne peut pas gérer tant que tu ne lui permets pas, c'est qu'il ne s'impose pas. Il voudrait bien gérer ta vie, il voudrait bien nouveau reprendre les mains dans ta vie. Mais pour ça, il demande une chose, qu'il soit ton Seigneur. Non pas que celui qui vient sauver quand tu as besoin de lui. Non, il voudrait que tu... qu'il soit ton Seigneur, qu'il dirige ta vie. Et du coup, le Dieu qui a créé toutes choses, qui est le Dieu de toutes choses, voudrait te rappeler qu'il voudrait être ton Dieu. Celui qu'il va conduire, celui qui va t'amener, qui va te protéger, celui qui va te guérir, celui qui va continuer à pourvoir à tes besoins dans le désert pour t'amener jusqu'à Canaan. Mais il va te faire vivre le repos dès maintenant. Dès maintenant. J'aimerais vous finir par ça parce que vous voyez, qu'on voit là, le chemin qui nous emmène vers l'endurcissement et l'attitude de cœur qui nous permet de remonter vers une attitude de cœur qui nous permet de voir Dieu agir dans nos vies. Il y a comme une rééducation, vous voyez. Il y a comme une rééducation. On s'enfonce dans l'endurcissement et Dieu veut nous sortir de là pour nous élever dans notre foi. Dieu veut nous élever à nouveau dans notre foi. Et on voit une chose, c'est que Dieu nous dit changer de mentalité, changer de cœur, changer d'état d'esprit. Parce que Il y a quelque chose de très intéressant qu'on voit, c'est que cette première génération, elle a été privée du repos de Dieu. Ils sont morts. Ils sont morts libres, mais morts dans le désert. Ils n'ont pas pu expérimenter toutes les bénédictions que Dieu voulait leur donner sur cette terre parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas rempli les conditions. Il y a un moment donné, ils étaient aux portes de la bénédiction. Et Moïse envoie 12 espions dont Josué et Caleb. Ils reviennent de la mission après avoir exploré ce beau pays que Dieu leur donnait. Et ils vont dire comme ça, ils vont faire ce compte-rendu, ils vont décourager tout le peuple. Encore un manque de foi terrible, un manque d'obéissance dans la foi également terrible, alors que Dieu leur disait, c'est ce pays que je vous donne. Le peuple va dire, c'est un pays, mais il est beau, mais il y a trop de géants, je ne vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver, c'est impossible. Il y a des géants qui vont nous tuer, on est comme des sauterelles à leurs yeux. Et là, on voit une chose, c'est que Dieu s'énerve parce qu'il commence à monter tout le peuple contre Dieu à nouveau en disant mais Dieu, pourquoi tu nous as emmenés dans ce pays-là? Regarde, il est beau, mais on n'a aucune chance d'y aller. Et là, il y a Josué et Caleb qui commencent à s'interposer entre Moïse et le peuple en disant mais attendez, rappelez-vous d'une chose, c'est qui a ouvert la mer Rouge? C'est qui nous a nourris durant tout ce temps dans ce désert? C'est qui? C'est Dieu, c'est le Dieu qui a tout créé, c'est le Dieu qui est tout puissant. Ça veut dire que s'il nous a amenés jusque-là, ça veut dire qu'il sera avec nous pour combattre, pour obtenir Canaan. Et là, on voit une chose, c'est que seules ces deux personnes, alors que tout le monde va mourir dans le désert par l'incrédulité, par cet endurcissement de cœur, Josué, Caleb, il est dit, Nombre 14, 24, mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent, un état d'esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'était un homme plein de foi. Comprenez une chose, c'est que Dieu veut nous faire bénéficier de son repos quelles que soient les situations et les périodes de nos vies. C'est certain. Mais plus que ça, le fait de pouvoir continuer le chemin avec lui dans cette dépendance en tant que sauveur et en tant que Seigneur. J'insiste bien là-dessus parce que bien souvent on veut Seigneur, on veut le sauveur, mais on ne veut pas le Seigneur. Eh bien, si tu mets Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur, j'aimerais te dire que tu vivras le repos au quotidien, quelles que soient tes circonstances. Mais tu ne vivras pas que des épreuves. Parce qu'il y a un moment donné, nos temps d'épreuves laissent place aussi à des temps de bénédiction. Notre vie chrétienne, il y a des épreuves, comme dans le monde sans Dieu. Sauf que notre vie chrétienne n'est pas qu'une vie d'épreuves non plus. Dieu a prévu des points d'eau, Dieu a prévu des temps de bénédiction jusqu'à ce qu'on vive le repos éternel. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui même, Dieu est à nos côtés. Dieu veut quand même nous confier des choses. Dieu veut nous bénir également. Les Canaans de notre vie présente, Dieu les a déjà prévus également. Sauf que Dieu nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs aujourd'hui. Dans vos déserts, n'endurcis pas ton cœur. Écoute ce qu'il a à te dire. Dieu veut te partager son repos. J'aimerais qu'on incline nos yeux, peut-être qu'on se recueille. J'inviterai les musiciens à avancer. Mais j'avais vraiment ce message dans mon cœur durant tout le mois de janvier, parce que comme s'il y avait des gens parmi nous qui sont dans une spirale à s'endurcir. Ils veulent du Jésus sauveur, mais ils n'acceptent pas le Jésus Seigneur, à savoir être maître de sa vie, à savoir être le conducteur de sa vie, n'accepter que d'être le passager et que Jésus puisse conduire la voiture de notre vie. Vous comprenez l'idée ? Et dépendre uniquement de la foi en Jésus, parce que nous savons que là où il nous amènera, eh bien, ce sera Canaan. Et que si on doit traverser un désert, il sera avec nous. Aujourd'hui même, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es dans cette situation de désert, une situation d'amertume, une situation de révolte contre Dieu, où tu sens que tu vas plonger dans la révolte, n'endurcis pas ton cœur. Pendant que la musique peut-être juste commence à jouer, j'aimerais qu'on invite toutes ces personnes qui peuvent être touchées, concernées par ce message, à lever leurs mains comme un signe de « je ne veux pas endurcir mon cœur, je veux vraiment à nouveau changer de cœur ». Je veux à nouveau te demander pardon, Seigneur, pour ma désobéissance, pour ce manque de foi, cette révolte qui m'amène des fois à me détourner de ton plan pour ma vie. Si c'est ton cas, juste lève la main, comme un signe de repentance, comme un signe aussi de dire, Seigneur, j'ai failli, je te demande pardon, parce que tout ça m'a amené juste dans le mur. Mais moi, je ne veux pas rester à mourir dans le désert. Tu m'as sauvé pour bien plus. Tu m'as sauvé pour vivre Canaan, tu m'as sauvé pour vivre des temps de bénédiction. Et aujourd'hui même, si je suis dans le repos, si je suis dans le désert, eh bien je viendrai puiser mes forces en toi. Je viendrai puiser ce repos en toi. Si aujourd'hui je suis comme vidé, eh bien ta présence me rappelle et ta promesse dans ta parole me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai mon repos. C'est ce que tu nous dis, Seigneur. Alors je te remets entre tes mains ce matin, toutes ces personnes qui lèvent la main, toutes ces personnes qui veulent changer totalement de mentalité, qui veulent changer d'état d'esprit, qui réclament ta grâce et ta présence, qui réclament ton repos. Je te prie, Seigneur, de revenir en nouveau pénétrer leur cœur. Je te prie à nouveau que Saint-Esprit, tu puisses vraiment pénétrer leur cœur. Je te prie que, Seigneur mon Dieu, toute barrière, toute muraille, tout ce qui les empêche d'avancer, les situations de la vie où tu leur parles et tu leur dis « changez là !» Eh bien, ils puissent se détourner pour à nouveau t'obéir et te faire confiance. Au nom de Jésus, je t'en supplie que ton nom soit élevé, Père. Amen. Gardez cette promesse et cette bénédiction dans vos cœurs. On va chanter ensemble. Mais aujourd'hui même, vu que vous avez pris cet engagement de changer d'état d'esprit, changer de manière de vivre votre relation avec Dieu, entrez dans le repos. entrez dans le repos, vivez le miracle du repos. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble et on va louer le Seigneur du coup. Même si ça va pas, même si aujourd'hui le désert il est bien présent, on va lui dire que Dieu est Dieu. On va lui dire que Dieu est notre Dieu. On peut se lever d'un même cœur, un cœur qui est plein de foi dans les paroles qu'on va chanter. Un cœur qui va réjouir le cœur de Dieu parce qu'il va voir que ses enfants ne sont plus des enfants rebelles, au cœur dur, mais des cœurs qui sont prêts à se laisser modeler, se laisser travailler par lui. Au nom de Jésus, je me donne totalement. Alléluia.
Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.
Jésus.
Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se
Seigneur, je me livre totalement. Amen. Est-ce qu'on peut le dire?
Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Oui, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi.
Je me livre totalement.
On te remercie, Seigneur, pour ta présence, pour ta parole, pour le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas laisser, Seigneur, aucune amertume, aucun endurcissement de cœur, Seigneur, à ton égard et à l'égard des gens qui sont autour de nous, Seigneur. Seigneur, remplis, renouvelle nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, non, je devrais faire la journée, mais en fait, je crois que je vais partir là. Mais bon, ce n'est pas très important, je crois que j'ai une petite grippe. C'est pour ça, c'est bien que vous soyez au deuxième rang. Voilà, on a laissé des places spéciales. Est-ce que vous êtes là pour la première fois ? À ce moment-là, levez la main. Oui, je vois au fond. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. On est très content que vous soyez là. Il y a des personnes avec un petit cordon rouge qui vont vous donner un